Cube Radio.
Hey Minou, on est content de reprendre les enregistrements de Devine qui vient souper, mais c'est comme vraiment pas la même chose qu'avant parce que on n'est pas chez nous, mais c'est un souper, mais on est à Cube dans une salle de conférence.
C'est ça, on peut pas recevoir les gens chez nous. Là, on a un masque, on va pouvoir l'enlever pour manger quand même.
Non, j'avais prévu de te mettre toute ta nourriture, ton manger dans un blender avec une paille. Ben oui, on n'a pas le choix, mais là, on a des collègues de travail. On respecte évidemment les consignes sanitaires. Alors, on se tient aussi, loin avec un masque.
Habituellement aussi, on les reçoit avec du bon sushi. Mais là, le restaurant de sushi est fermé.
Oui.
Fait que là, on est du Saint-Hubert.
Ben,
fait
écoute,
que, on les reçoit dans une salle de conférence avec du Saint-Hubert.
Ben écoute, mais l'important, c'est la discussion. En plus, on va rire parce que, tu sais, nos invités ce soir, c'est Martin Petit et Patrice Cocreau. C'est deux grandes gueules, deux personnes qui, chacun dans leur milieu, tu sais, brassent la cage souvent. Fait que je pense qu'on s'ennuiera pas, là.
Et ce sont deux artistes qui n'ont pas la langue dans leur poche. Patrice Cocreau est très présent dans les médias sociaux. Il y a des opinions sur toutes. Et dans ce milieu-là, où les gens font quand même extrêmement attention pour pas trop semer la discorde, de peur de perdre des clients, de peur de perdre des contrats, etc. Alors, Martin Petit, hein, humoriste, qui vient de faire un gros coup, il vient de vendre sa série Les Pêcheurs à HBO.
À Netflix?
À Netflix!
Non, mais c'est déjà c'est en nombre depuis deux semaines.
Oui, je sais.
Donc, c'est ça, c'est énorme, là.
C'est énorme, il doit être millionnaire.
Non, ben, je lui ai posé la question parce que je l'ai reçu à Cube Radio et il m'a répondu de façon assez énigmatique en disant, tu sais, genre, c'est sûr que c'est mieux que rien et c'est moins que ce que je pensais que ce serait, mais c'est mieux que ce que plein de gens pensent, tu sais.
Ben, surtout que dans ce milieu-là, maintenant, tout le monde pense à John. Et Patrice Cocreau, comédien.
Et
qu'on a vu dans Le Malade imaginaire qui était tordant,
il
était super drôle.
Il a fait production théâtrale. Il joue dans, évidemment, on l'a vu à la télé dans Le cœur a ses raisons. On l'a vu, écoute, dans les films Le Menteur, dans à peu près tous les films québécois, Flic de père en fils, etc. Et on l'a vu à un moment donné, dans une imitation, Marc Labrèche faisait toi et lui faisait l'invité de Marc Labrèche, donc ton invité. Tu te rappelles pas de ça?
Non, je me souviens pas de ça.
OK, mais je te le rappelle à l'instant. Fait que ça va être drôle de lui rappeler ça tout à l'heure. Je sais même pas si lui s'en souvient.
Je ne sais pas parler. On dirait qu'on est dans un meeting d'affaires, là, parce qu'on est dans une grande, on est dans la grande salle de réunion des boss de Cube.
La salle de conférence.
La salle de conférence de Cube.
On a quasiment l'impression que Pierre-Carles va s'en venir puis va nous dire les orientations pour les deux prochaines années.
Ça fait un peu corporate.
Mais je pense que la prochaine fois, je vais apporter des petites bougies, tu sais, puis peut-être mettre une petite peau d'ours devant l'entrée avec un faux feu de foyer pour donner l'impression que c'est comme chez nous, mais c'est sûr que c'est pas comme chez nous, parce qu'on n'a pas le droit de, si on n'a pas le droit de recevoir notre propre famille.
Comment ça va?
Ça va. Bienvenue dans notre salle
de conférence.
Merci,
la salle de conférence.
Ça
avec un masque?
Dès que vous allez être assis, puis qu'on va commencer à manger, vous allez avoir le droit d'enlever
vos masques. C'est la première fois que vous le faites demain?
Oui.
Vous inaugurez. C'est d'ailleurs, formidable. Merci d'avoir accepté.
On peut enlever notre masque.
Yes.
OK, mais on peut enlever notre masque.
Écoute, je veux juste revenir parce que tu as dit quelque chose de super intéressant tout à l'heure. Parce que là, on est installé dans la salle de conférence. On a on est à 4 mètres quasiment les uns des autres.
Oui.
Et Patrice t'a dit, on s'est comme allé à la messe. Et oui. Martin t'a dit, t'es jamais allé à la messe. Capoté, cette affaire-là? Parce que tu dois être à peu près le seul
si
de ta
capoté.
Génération à...
Ben, je suis définitivement le seul de la génération.
Mais t'es né en 1968.
Je suis né en 1968.
T'es pas né en 1988.
Non, c'est ça. Fait que j'ai pleuré à la communion quand tout le monde communie, là, je pense que c'est en troisième année, là. Ouais. Parce que tout le monde a des parrains dans ce temps-là. Ouais. C'est ce que j'ai pas.
La communion de deuxième année, 7 ans, non?
7-8 ans, je sais pas. Il y a un moment, tout le monde s'habille propre, puis ils ont des parrains qui leur donnent des cadeaux. Ouais. Fait que ça, je l'ai mal vécu. Ah. Parce que je suis le seul de toute l'école qui a pas reçu des cadeaux, puis qui a réalisé qu'il avait pas accès à des parrains qui donnaient des cadeaux. Fait que ça m'a vraiment troublé parce que mes parents ont pas fait le jump out. Ça, ils prendraient quand même des parrains, puis ils ont pas...
T'as eu un choc
avec ils ont vraiment déchiré le plaster avec tout ce qui venait avec.
C'est protocole, pas là, t'as donné
un... Donc, tes parents étaient des athées militants.
C'était des militants, mais ouais, ça m'a pris du temps avant de comprendre l'originalité de la réflexion de mes parents. Mm. Mais c'était pas comme une... C'est pas un athéiste de surface.
Hmm. C'est mes parents. C'était très profond.
Mes parents ont réfléchi à cet acte-là parce que les conséquences, à la fin des années 60, début 70, fallait quand même que tu expliques ton geste. T'as plus à l'expliquer maintenant.
Question. Mais il faut
que tu expliques à ma grand-mère qui, elle, pensait que j'allais en enfer, mettons.
Ouais.
Ah. Fait que c'est niaiseux, mais tu sais, ma grand-mère était scandalisée.
Ben oui, parce que
j'étais son premier petit-fils, puis j'allais en enfer.
Mais c'était ça ma question. Les parents de tes parents étaient plutôt catholique ou en tout cas religieux.
Absolument. Puis le rituel, puis je comprends. Puis les Québécois, on s'est débarrassé de la religion, mais on a gardé les rituels parce que les rituels, de toute façon, existent d'avant les religions. Fait qu'on a besoin socialement de rituels.
Ben oui.
Fait que le fait de ne pas participer au rituel, mais de ne pas le remplacer, ça crée un
espace.
Ça crée un vide que les athéistes doivent, je pense. C'est le défi de l'athéisme là dans les prochaines années, c'est de
trouver des rituels autres.
Parce qu'à un moment donné, tu meurs, t'as des enfants, puis faire baptiser tes enfants, c'est d'inviter tout le monde, c'est comme dire au village. Ben voici un nouveau membre du village, fait qu'il est accueilli par tout le monde. Tu te poses la question, quand tes parents font un choix qui est différent de tous les autres parents sur ta rue ou dans ton école, tu t'es obligé de te positionner, tu es obligé de te dire, est-ce que mes parents sont fous? Parce que s'ils font pas comme les autres, ou qu'est-ce que mes parents ont réfléchi que les autres parents ont décidé, puis pourquoi moi, mes parents... Les seuls de toute l'école ont décidé ça.
Mais t'étais dans quel milieu? T'étais en banlieue, en région?
En banlieue, j'étais à Laval, mais mon père, c'est un gars de Montréal. Très, très urbain. Mm-hmm. Ma mère vient de Trois-Rivières, très catholique, milieu très, très pauvre. Puis, je me rappelle, tu sais, je jouais la game. Fait qu'à un moment donné, le curé vient nous faire confesser en troisième année. Puis là, je rentre. Puis là, fait que tout le monde y va, puis le monde ne se pose pas la question. Genre, t'es-tu baptisé? Tout le monde y va. Fait
ça va
de
soi.
Mais qu'est-ce que t'as confessé?
Là, le curé, il me dit, confesse-toi. Puis, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée quoi dire que j'ai fait de pas correct.
As-tu ri? Je suis confus.
Non, je suis super mal à l'aise. Je suis intimidé. J'ai pas la bonne réponse.
Okay.
Puis, j'ai aucune idée de la conséquence. Puis, il me barouette de faire des prières que je connais pas.
Fait que là, tu rentres à la maison.
Fait que j'arrive chez nous. Je dis à ma mère, je dis, bon, ben, voici ce qui s'est passé. Là, elle me dit, t'es un enfant, t'as pas à t'excuser à qui que ce soit.
Excellent, j'adore ta mère.
D'être un enfant. Un enfant, ça fait rien, ça apprend des choses, mais ça fait rien des affaires que ça doit s'excuser à un étranger.
Mais bon, le religieux doit toujours être là. Tu sais, religieux, ça veut dire relié.
Relié, oui.
C'est ça, et je veux pas ouvrir le débat, là, mais...
Mais tu vas l'ouvrir pareil.
Non, mais le climat de rectitude politique et de police de la pensée et tout ça, il y a quelque chose de très religieux là-dedans. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Il y a des blasphèmes. Il y a des œuvres à l'index.
Il y a des gens qui se font excommunier, comme Marie-Pierre Morin.
Il y a des gens qui sont des petits curés laïcs qui te font la leçon, qui prêchent. T'as les bonnes personnes. Et si jamais tu tombes dans le péché, il faut que tu dois expier sur la place publique.
Mais c'est tout à fait religieux.
C'est absolument le lien que j'ai fait.
Il y a des hérétiques maintenant sur la Terre.
Il y a quelque chose de très religieux là-dedans.
Oui,
et je pense que ça montre que, finalement, on tente de se débarrasser de la religion, puis elle revient tout le temps de façon peut-être qu'on n'avait pas prévu.
C'est juste que quand tu dis qu'il faut se débarrasser du religieux, moi, je pense qu'il y a une raison évolutive à ça. C'est-à-dire qu'on a survécu comme espèce animale parce qu'on a été capable de se tenir en groupe. Puis de penser pareil, puis s'habiller pareil.
Oui, tout à fait.
Puis faire la même affaire. Fait que je pense qu'on est programmé pour être conformiste. Parce que c'est oui, comme ça qu'on a survécu. Oui. Parce que tu peux pas imaginer un être humain il y a 20 000 ans dans un sur la planète Terre qui est très hostile là, tu sais, au niveau animal. Puis tu sais, on peut se faire tuer. Un être humain peut se faire tuer par une grenouille bleue. Il y a des dangers partout. Un champignon est dangereux. La seule façon qu'on a trouvé de survivre, c'est de se tenir en gang.
Mais de par contre, avec des
règles.
Par contre, ces règles-là font en sorte que on a le défaut de pas bouger,
exact,
de devenir conservateur, puis de ne pas évoluer.
Mais ceux qui évoluent, c'est
ceux qui ont trouvé l'équilibre entre de dealer avec les éléments, les êtres humains qui ont un tempérament de recherche qui sont atypiques puis qui sortent de la gang. Fait que ça prend des éléments qui sont hautement audacieux,
atypique, comme
mais ça prend un groupe qui est homogène, parce que si tout le monde est atypique, puis tout le monde est original, puis tout le monde fait fi de toutes sortes de règles, ça fonctionne pas.
Tu viens de le dire, Martin, l'équilibre, mais dans tout, si on parle du religieux, dans le sens des balises, tout ça, puis on est effectivement grégaire, mais on est, si ça devient cristallisé et rigide, il n'y a plus de fluidité de mouvement. Or, la vie, c'est de l'impermanence, c'est du mouvement. Oui. Fait que si on est, t'as peur de la mort, tu fiches, tu contrôles, puis parce que pour moi, il y a une distinction entre le contrôle et la maîtrise. On en parle rarement, mais tu sais, le contrôle, c'est comme toute l'appui extérieur, puis on contrôle, puis on contrôle, mais on est la vie, c'est parce que tout bouge, tout est impermanent, tout se transforme, puis inévitablement, il y a la disparition, la mort, chose qui est totalement occultée en Occident, en tout cas au Québec, ou beaucoup, en tout cas la mort, puis vieillir, ça n'existe plus. Mais vieillir est devenu c'est une erreur.
Ouais.
Tu sais, je dis pas que tous les médecins sont comme ça, mais il y en a, c'est comme un échec. La personne est morte, c'est un échec, j'ai failli. On va mourir. C'est pas un échec. Comment se fait-il qu'on a autant de difficultés juste à intégrer cette impermanence-là?
Moi, j'avais fait une entrevue une fois avec un notaire qui me disait, c'est quand même assez hallucinant parce que les gens viennent voir le notaire pour leur testament, puis tout ça, puis ils disent, si je meurs, je voudrais qu'il arrive telle affaire. C'est quand même de dire, si je divorce, parce que peut-être tu vas divorcer, peut-être tu divorceras pas. Mais les gens commençaient leur phrase pour leur testament en disant, si je meurs, je voudrais que l'argent aille. Mais le notaire est obligé de leur dire, il n'y a pas de si dans ta phrase. Parce que plein de choses dans la vie sont peut-être une possibilité, mais la mort, c'est une certitude.
Absolument.
Et il y a encore des gens à l'âge adulte qui n'ont pas intégré cette idée-là, on va tous mourir.
Exact.
Mais je trouvais ça fascinant, le notaire
néant,
qui
le
disait ça.
Mais tu l'as dit, si tu enlèves les... En fait, c'est ça. C'est que d'avoir un cimetière au centre de ta ville, c'est très lourd. Parce que il y a plus de monde mort que de monde vivant.
Mm-hmm.
Puis les morts parlent énormément. Mm-hmm. Donc, d'avoir ça, il y a comme un rappel à l'ordre des gens qui sont morts. Fait qu'une pierre tombale,
ça te rend humble.
Oui, il y a une humilité qui vient avec ça.
Tu n'es que de passage.
Exact.
Et maintenant, aujourd'hui, on est tous des stars. On est tous des stars de notre vie. Là.
Exactement.
On est tous là. Fait que
c'est une leçon d'humilité.
Que tu es de passage. Puis sais-tu quoi, dans trois générations, les gens se souviendront même pas de toi.
Oui.
Une génération.
Et de croiser ça à tous les jours, je trouve ça très utile.
Oui, mais je veux dire, il y a une couple de complotistes.
J'aimais pas ça regarder, j'aimais pas ça croiser des cimetières. Quand j'étais jeune, ça m'achalait. Parce que c'est plate d'être jeune puis de te faire rappeler que le film va finir. Mais tu vois, mon plus vieux va dans une école puis il y a un cimetière juste à côté.
C'est très drôle.
Je le croise donc, je croise à tous les matins, et tu sais, je vais le porter, puis c'est cimetière à l'école. Puis eux autres, dans l'école, vue sur le cimetière.
Non!
La vie s'arrête, puis le même alors qu'elle commence, sauf que c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que l'être humain a vécu avec la mort tout le temps. Super proche.
Ah oui, les guerres. Depuis 2 ans, mais là, c'est arrêté à cause de la pandémie, mais j'ai accompagné des gens en soins palliatifs.
T'es sérieux?
Oui, oui, oui.
Non, je savais que tu faisais des conférences sur l'anxiété. Mais je savais pas que tu accompagnais. Raconte!
Oui, j'étais attiré ou j'étais appelé par ça. Puis il y a une collègue, une amie comédienne qui faisait ça, puis ça m'a toujours interpellé.
C'est du bénévolat ou quoi?
Ça me fait pas peur. J'ai pas peur de la mort. J'ai vu mon père dans une boîte avant l'incinération. J'ai eu bien plus peur de la vie que de la mort. Ça résume tout, là. J'ai eu peur de tout. Pas la mort, même la mort, j'avais même des comportements un peu suicidaires. Je voulais pas me tuer, mais je portais en moi le sabotage ou des trucs comme ça.
Tu défiais la mort, peut-être?
Oui, Exactement. Je voulais la rencontrer, puis bon. Mais ça s'est présenté à Saint-Jérôme. Il y a une maison de soins palliatifs où je suis allé à quelques reprises, peut-être une quinzaine de fois, pour rencontrer des gens en fin de vie. C'est extraordinaire. Puis moi, j'ai eu une formation, évidemment, au préalable.
J'imagine.
Puis j'étais complètement... Je suis dans mon élément, puis là, parce qu'il y a un différent protocole à respecter. Évidemment, tu ne cherches pas à sauver la personne ou à lui dire « ça va bien aller ».
Mais c'est ça, moi, ça serait mon réflexe. Non, tu ne mourras pas, voyons donc. Tu ne dirais pas à quelqu'un
« c'est de l'accompagnement.
Oui,
c'est de l'écoute. C'est une présence, simplement. Et il y a une série de questions qu'on pose à la personne, si la personne veut répondre, mais en rapport avec sa vie. C'est pas clinique, évidemment. C'est d'où venez-vous? Vous étiez combien d'enfants? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Êtes-vous en paix actuellement?
Un travail d'intervieweur, en fait.
Oui, puis de discussion, de recevoir. Et c'est formidable. Et une personne qui travaillait là me disait, je sais pas pourquoi dans les écoles, on ne parle pas de la mort. Et j'ai dit, t'as tout à fait raison. C'est occulté, ça n'existe pas, alors que ça fait partie de la vie, puis sans tomber dans le morbide ou la complaisance, mais simplement dire aux enfants, mais voici, c'est ça, c'est ce que les différentes civilisations faisaient, c'est-à-dire, on vivait avec les personnes plus âgées, tout ça.
Les Mexicains, avec la journée de la mort, là, puis ils ont tous des crânes, puis tout ça, puis ils célèbrent la mort de façon festive.
En Occident, ça peut être lourd.
Non, mais c'est parce que la mort est acceptable seulement si t'es croyant. Parce que si t'es pas croyant, elle est inacceptable.
Elle est révoltante.
Révoltante, Christ. Tu vas mourir, puis il n'y aura pas de rappel.
Mais pourquoi elle est révoltante, au fait?
T'en fous, toi.
Non.
Tu es révoltant, moi?
Richard, il y a tellement des problèmes avec ça. Écoute, ça a pris... ça fait 18 ans qu'on est ensemble.
Et
ça a pris
15 total,
ans
là.
De vie commune. Ça a pris 15 ans de vie commune avant qu'il fasse son testament.
OK.
Il n'était pas capable de s'asseoir, justement, comme je disais tout à l'heure, avec un notaire en disant si je vais mourir ou quand je vais mourir, il était incapable d'accepter sa propre finalité. Non, c'est lui, il avait sûrement un problème.
Est-ce que c'était une source même de c'était comme... C'était,
ah oui, ça l'envoie.
C'est une source d'insomnie, là.
Okay.
Même encore, là, j'ai 59 ans, c'est une source d'insomnie, là. Okay. Des fois, là.
C'est normal.
Je me réveille, puis je suis
aussi, normal. Ça t'envoie, ça.
C'est normal, c'est dans une norme. Mais c'est pas,
moi,
c'est pas systématique pour tout le monde.
Non, mais j'aime le party de vivre.
Ouais. Ouais, ah, c'est bien ça. Dit, Martin.
Je l'aime le party, fait que j'ai juste pas le goût que le party arrête, fait que je repousse.
Ouais.
Je repousse le. Tu sais, je veux dire, si ça m'arrive de façon violente.
Ah ben non, mais là.
J'aurais peut-être, si je me fais frapper par un autobus, j'aurais même pas le temps d'avoir une réflexion, fait que. Moi, je suis plus dans le. Je suis pas dans le déni que ça va arriver.
Non, c'est ça.
Mais j'assume complètement mon amour de ça. De ce moment-là. Puis je suis
pas. Non, mais t'as pas peur de la mort de tes proches, des gens que t'aimes. Ça, c'est freakant.
Ça me terrorise. Ça me terrorise de penser que de perdre du monde proche que j'aime. Fait que tout ça me terrorise tout à fait.
Là, maintenant, ça va bien, mais moi, je trouvais ça. C'est difficile, c'est donc bien violent, c'est donc bien impitoyable.
Qu'est-ce qui t'angoissait? Parce que toi, tu as des troubles anxieux.
Comment?
Tu peux vraiment le dire au passé.
Au passé.
Mais c'est quoi les troubles anxieux?
Ouais. Décris-nous les symptômes.
Sur un joint, ma vie s'est effondrée. En 1983, j'étais seul chez moi, j'écoutais de la musique seul, j'avais les casques sur les oreilles. Et puis, tout à coup, j'ai senti que ça allait basculer, parce que je fumais de temps en temps des joints. J'aimais ça, m'évader, fuir la vie. Puis à un moment donné, j'ai senti qu'une catastrophe allait se produire, ce qui était effectivement arrivé. Le plancher, j'ai eu l'impression qu'il s'ouvrait sous mes pieds, palpitations, sueur froide. On aurait dit que le casque me rentrait dans le crâne. Tout est devenu étranger instantanément. Boire de l'eau, se lever, respirer, j'étais étranger, je faisais une psychose. Et ça a été une réappropriation extrêmement lente et pas en ligne droite, là, très chaotique. J'ai décidé d'entreprendre le chemin par moi-même, c'est mon choix. D'aucuns pourraient dire, ben oui, t'aurais dû...
Va voir un psy, prendre des pilules.
J'ai fait autre chose. Et ma voie de résolution, c'était de faire face. Donc, reprendre le métro qui me faisait peur, prendre l'ascenseur, remonte sur scène, reprends l'avion, puis j'étais terrifié, mais je reprends l'avion, Puis mon amoureux est agent de bord aujourd'hui. Faut le faire quand même, le destin.
Ben, le destin fait bien.
Et j'ai même sauté en parachute il y a 2 ans.
Pour célébrer ta guérison.
Pour mettre le clou dans le cercueil.
Oh non, ça m'impressionne en maudit.
Et puis je ressauterai en parachute. Donc, c'est faire face à l'inconnu qui a été pour moi la voie.
Mais si on t'avait dit ça là, dans tes pires moments, tu vas sauter en parachute.
Impossible.
Mais moi, j'adore le titre de ton livre, « Guérir à gorge déployée ».
Oui, parce que Michel,
c'est un jeu de mots absolument génial.
Toi qui es humoriste, Martin, moi, si je n'avais pas ri, je ne serais pas là, je serais au cimetière dont tu parles. ou à l'asile. À ce point-là. À ce point-là.
Je pense que l'humour
donne un espace.
Ce pouvoir-là.
Oui.
Tu sais, je regarde là, des. Je vais appeler ça là, de la sagesse ordinaire.
Oui.
Vraiment, c'est ça le trait commun. Du monde qui ont énormément d'humour. Un humour sur la vie, là. Tu sais, pas un humour que tu montes sur scène puis tu fais des shows pendant deux heures. Non. Un humour d'eux-mêmes, de la vie, tout ça. Je pense que c'est ça qui. C'est excessivement puissant.
Rire, ça te ramène à l'instant, premièrement, parce que tu sais que la pension peut être hier, demain, l'autre fois, ailleurs. Ça te ramène à l'instant. C'est organique. Rire ou pleurer. Et puis, ça donne un espace. Ça donne du recul, une perspective que souvent, on est tellement collé avec nos professions, nos outils, notre réputation, whatever, notre survie. Parce qu'il y a beaucoup de survie aussi. Fait que ça te donne du recul.
Tu vérifies la gravité de quelque chose avec l'humour. Moi, je suis tout le temps le gars poche quand il arrive de quoi qu'il fait une joke. Tu sais, ceux qui me suivent sur Twitter le savent.
Ben oui.
Tu sais, je veux dire, je suis assez rapide sur faire la joke qu'il faut pas faire. En tout cas, sur le sujet qu'il faut pas faire. Mais c'est tout le temps volontaire.
Toi, t'es le genre de gars à rire dans des funérailles.
Oui, absolument.
Mais tant mieux.
Il n'y a pas une funéraille où j'ai pas ri.
Ben, les fois où j'ai
mais
plus ri
que mais pas par méchanceté. C'est je suis troublé, puis j'évacue, puis... Puis je teste. En fait, je teste là où je dis... Je teste la gravité.
Oui.
Tu sais, c'est comme une façon de dire... C'est-tu si grave que ça, ce sujet-là? Sérieusement, il n'y a pas une porte par laquelle on peut en rire. Puis si j'ouvre une porte, ça veut dire que le sujet...
Et pas 100% noir.
Ouais. Après, ça veut pas dire que ça dénature le sujet, mais ça veut dire, hey, gars,
c'est t'as ouvert un pas de recul.
Porte, ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que c'est pas sacré, donc on parle, faire un lien avec le religieux, mais du moment que les Québécois ont s'est mis à rire de la religion catholique, qui était la religion dominante,
avec les cyniques,
on a fait comme, bon, ça a pas détruit, c'est pas les cyniques qui ont détruit.
Non.
La religion catholique au Québec. Mais ça a fait en sorte qu'elle était abordable de façon... Il y avait pas de gravité. Fait que ce qu'on vit avec l'islam, puis le choc de l'islam en France, qui est de ne pas rire d'une caricature, ils ont le même problème.
Tout à fait.
Parce que du moment que le coût humain de rire devient la mort, ben là, ça devient... C'est comme si un gars des cyniques, mettons, s'était fait tuer.
Tout à fait.
Il aurait fallu continuer. Il aurait fallu. Tu rentrerais en humour puis tu fais comme bon ben ça a l'air que ça va peut-être me coûter ma vie mais j'embarque pareil ou pas là. Tu sais donc de rire.
Mais c'est un très bon parallèle.
Puis le Charlie Hebdo, eux autres ils font la même chose je trouve. Ils font.
Mais ils rient tout le monde.
Ils font méchamment. Puis c'est pas vrai que la personne derrière le dessin de Charlie Hebdo le fait à 100% dans cette idée là. Il fait juste pour dire, j'ai aimé ce que, puis Dave Chappelle, il l'a dit à un moment donné dans son show aussi. Mais il dit, je le fais. Il dit, je vais dire quelque chose qui n'a pas de bon sens, ou je vais dire quelque chose qui n'est pas politique correct, ou je vais faire de quoi contre quelque chose qui semble sacré en ce moment.
Ouais.
Mais il dit, je le fais juste pour que vous vous rappeliez qu'est-ce que ça donne, c'est quoi le son de quelqu'un qui le fait. Puis juste cette phrase-là, je me suis dit, mettons, dans mon métier, c'est là que je trouve un sens. Des fois, je tweet des affaires, là. Puis, mettons, là, je m'attarde sur un sujet, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu regardes le landscape autour de toi, puis tu dis, si je dis rien, ça peut dangereusement donner l'impression que ceux qui disent que le sujet n'est pas abordable ont raison. Fait que ça t'oblige. Puis là, il y en a qui sentent l'appel. Moi, des fois, je sens l'appel comme humoriste de dire, ben, je sais qu'il y a un coup à faire cette joke-là. Puis ça serait sûrement plus facile d'en faire une autre.
Voilà.
Mais il faut rappeler aux autres.
Le son.
Le son de la petite dissonance que ça fait de faire la joke, effectivement, que tu voulais pas entendre sur le sujet que tu veux pas entendre pour dire que ça existe.
Il y a un ami à moi qui est prof et il y a quelques jours à peine sur Twitter, il a mis une petite vidéo parce que vraiment, il y avait une montée de lait qui ne se pouvait plus. Il a parlé à ses élèves, c'est professeur de littérature, mais il a parlé à ses élèves d'un sujet X et à un moment donné, il a dit l'Holocauste et il dit ça a créé un silence de mort, c'est le cas de le dire, dans la classe, les étudiants ne savaient pas. Ils disaient, l'Holocauste, l'étoile jaune, tout ça, il n'y avait aucune réverbération.
J'espère qu'il
n'y
a pas quelqu'un qui a dit
low cost. Oh! J'ai jamais vu le lien avec le Costco et le low cost.
Ouais, low cost. Alors après, comment veux-tu sensibiliser les gens à toutes sortes d'affaires?
Je vais faire l'avocat du diable.
OK, vas-y.
Parce que j'aime ça dans la vie.
Je te vois venir. Les vieux disaient la même chose de nous autres. Non. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien.
Non, c'est pas ça. Je suis rendu là-dessus. Je suis indulgent.
Oh boy, comment tu fais?
Je dis pas que l'histoire avait été bien enseignée dans ce cas-là. Là. On aurait tous notre version des choses importantes, puis ça serait peut-être pas la même liste personne. Mais je vais être indulgent par rapport aux jeunes et l'histoire. Parce que pour rentrer dans les bottines, puis je l'ai vécu cette année, au début du confinement, un livre que je suggère, c'est le récit des aventures du Nord-Ouest de Gabriel Franchard, un gars de Montréal qui a été embarqué sur un bateau en 1830 puis qui a fait une des premières expéditions. Là. 2-3 ans après Lewis and Clark, il embarque d'un bateau, le Tonkin, il fait le tour, il s'en va à Hawaï et il décrit, c'est un journal d'un gars de Montréal de 1800 qui n'a jamais vécu grand-chose et qui a 20 ans, voit le New York de ces années-là, embarque sur un bateau, est avec toute une gang d'aventuriers, se ramasse à Hawaï, visite des tribus amérindiennes qui n'existaient plus 5 ans après, décrit tous ces gens-là, croise Marie Dorion en revenant, puis revient à Montréal, puis son journal, c'est un des rares témoignages des premières personnes qui sont allées en Californie. Tout est long dans son récit. Puis moi, ça m'a fait du bien, parce que t'es en confinement, tu peux pas bouger, puis tu te plains de l'absence de contact. Puis lui, il dit, bon, on attendait un bateau au printemps. Le bateau n'est pas arrivé. On l'a attendu jusqu'au mois d'octobre. Jusqu'au mois d'octobre. Fait qu'on s'est rendu compte que le bateau que Astor nous envoyait de New York sera pas là cette année. Fait qu'on se prépare à hiverner un deuxième hiver.
Incroyable.
La dimension du temps. Fait que là, ils ont attendu le bateau. Le bateau n'est pas arrivé. Il est arrivé l'année d'après. Puis c'était une nouvelle gang qui est arrivée. Puis il y a eu une guerre entre-temps. Puis il a fallu qu'ils se séparent. En tout cas, bref, c'est un livre fascinant. C'est un récit absolument hors norme. Toi qui dis que tout est pareil. Ils vivaient dans un monde où chaque kilomètre que tu faisais, tu rencontrais un monde 100% différent.
Absolument.
Fascinant. Mais bref, pour rentrer dans les bottines de Gabriel Franchard, quand je suis rentré dans le livre. Là, parce que j'étais en confinement. Puis j'étais un adulte, puis je peux pas m'imaginer la difficulté que ce gars-là... Ouais. Tout ce qu'il décrit, là, je suis capable d'imaginer le paquet de troubles qui vient avec. Hostie, ils se sont fait arnaquer par les Amérindiens. Ils ont monté dans la montagne, puis il y avait un guet-apens, puis ils ont volé toute la petite bouffe, puis les plans qui allaient... Ils revirent de bord. T'as-tu déjà reviré de bord d'une journée parce que t'as oublié ton masque à l'épicerie, puis t'es en crise? tu te fais voler tout ce que t'as... Pis là, revirer de bord, ça veut dire un mois et demi revenir au camp de marde que tu pensais que tu avais quitté. Pis là, d'enlever les rats pis les belettes, pis là, de repartir ça, pis de te préparer à vivre un hiver de marde où tu vas manchouiller du saumon. Tout ça, je suis capable de me l'imaginer parce que je suis un adulte.
Ouais.
Si j'enseigne ça à mon fils qui a 13 ans, pis que sa seule référence, c'est d'avoir de vivre dans un autre monde, c'est difficile d'incarner cette notion-là.
Je comprends ce que tu veux dire.
Moi, ce que je pense, notre relation à l'histoire, on est très sévère avec ses enfants. Comment ça, les enfants savent pas tout ce qu'on veut qu'ils sachent? C'est parce que c'est difficile de rentrer dans les bottines d'un autre être humain. Plus on vieillit, puis c'est ça qui est intéressant, plus on vieillit, plus on est capable de rentrer dans les bottines de tous les êtres humains qui nous ont précédés. Moi, j'avais de la misère à m'imaginer...
6 millions de Juifs exterminés dans des camps de concentration. Même un enfant de 12-13 ans devrait être capable... de se mettre dans les bottines d'Atranc, mettons-le.
Mais pas autant qu'un adulte qui a des enfants et qui est qui est capable d'imaginer le drame maintenant de voir son enfant mourir ou d'avoir à l'abandonner dans un camp de concentration. La douleur est beaucoup... Moi, j'ai visité Auschwitz, j'avais 30 ans ou 32, 33 ans. Je pense que si j'avais visité Auschwitz à 21... j'aurais pas été capable de m'imaginer perdre mes proches de la même façon que je l'ai vécu juste un 10 ans.
Tu parlais du temps, le temps.
Oui.
C'est ça l'affaire, c'est un des défis majeurs parce qu'ils vivent dans un temps très accéléré, les jeunes.
Fascinant l'exercice là, que des historiens vont mettre un nom sur les derniers mois qu'on vient de vivre. Ouais. Là, mais il n'y a pas de nom encore. Mmh. Mais ça va être une époque. Là.
Ouais.
Ça va avoir un nom. Quelqu'un qui va le taguer comme du monde.
Ouais.
Parce que ça ressemble à quelque chose comme laver tout son linge sale que tu n'avais pas lavé. Là.
Mmh.
Fait que ça fait 6 mois là, qu'on est là-dedans. Puis ça va durer une autre année. Fait qu'il y a d'autres sujets qui vont venir. Mais si on prend juste le sujet énormément complexe amérindien à laquelle on a accordé un faux débat qui a duré 10 jours. Juste ça. Mm. C'était lourd, là, c'est chargé. Là. On ne s'est pas occupé de chaque affaire. On passe tout de suite à un autre. On se dépêche à ne pas...
Mais de controverse en controverse, de sujet grave à sujet grave... C'est...
On nomme des choses importantes. Mm.
Oui, c'est étourdissant.
Mais on rentre pas dedans.
Mais on surfe. C'est comme...
On passe à la prochaine grosse oui. histoire. Là, on carbure à quelque chose que j'ai de la misère à comprendre, en tout cas, le phénomène psychologique social à laquelle on adore.
Regarde,
tout le monde, on embarque dans cette affaire-là.
Cet été, ça fait pas longtemps, cet été-là. Mmh. Tu, tu parlais là, d'un gars là, qui sa vie, c'était ça. Le bateau arrive dans un an. Bon, cet été-là, tout le monde parlait de la Christie de List avec là, des noms de vedettes là, qui auraient commis des impairs. On ne parlait que de ça tout le temps.
Tout à fait.
Personne qui parle de ça. Non. C'est complètement le passé. Là, c'est le nom en N. Le nom en N. Puis là, dans 3 semaines, ça va être une autre affaire. Là.
Mm-hmm.
Puis là, on va parler rien dessus, puis on va avoir oublié totalement la controverse sur le nom en N. Ça, ça contre plus.
C'est comme si ces sujets-là deviennent des prétextes aussi pour évacuer. En dehors du fait que, oui, ça peut toucher des gens de façon très, très importante, mais à un moment donné, c'est « OK, on explose, on le dit, on évacue, parce que... »
J'ai rarement vu dans l'histoire du Québec autant de sujets forts, lourds de sens, à laquelle on abat, qu'on évacue là, du jour au lendemain pour passer à traiter de façon super superficielle le sujet suivant. Puis moi, je suis pas de même. Fait qu'on vit à une époque, puis j'ai du temps, puis je suis curieux. Fait que ça me fait chier, parce que, pas ça me fait chier, je trouve ça intriguant. Mais j'ai de la misère à suivre parce que moi, mon premier réflexe, c'est d'aller lire 4 livres sur ce sujet-là. J'ai pas encore déposé mes livres du dernier sujet.
C'est un autre.
C'est bon,
j'ai lu sujet. Les 417 recommandations de la commission Vient sur les affaires amérindiennes.
Ah, okay.
Mais c'est fascinant parce que tout est là.
Je les ai toutes
lues. Le milieu du système de santé, la discrimination dans le système de santé.
Les demandes sont...
C'est clair.
Il y en a 417.
T'es allu.
Ça veut dire que honnêtement, je les ai lus.
On va faire une commission, ça, c'est très québécois.
C'est ça.
On fait une commission, on accouche d'un rapport avec des recommandations. Oups, le rapport est mis. Bon, là, on passe après ça à autre chose.
Tu l'as dit tantôt, Martin.
Les cycles des nouvelles, là, c'est rendu très, très court. C'est vraiment dans les médias. Là.
Ouais.
Les cycles des nouvelles, là, les médias se tannent. Après ça, ils vont dire, ben là, c'est quoi une nouvelle affaire?
C'est ça. Tu l'as dit tantôt, Martin.
La frustration, tu sais.
Tu as parlé de superficialité, mais l'étymologie du mot superficialité, c'est couvrir. Donc, on est beaucoup dans l'horizontalité. On couvre, on est partout. Ouais. Mais où est la verticalité? C'est-à-dire prendre racine, s'ancrer, puis se tenir debout. T'sais. On n'a pas le temps d'être vertical. On est juste dans l'horizontalité. On clenche.
Ou tu résistes à cette envie-là de passer à d'autres choses parce que quand tu creuses, ben là, ça devient complexe.
Exact.
Là, ça devient nuancé. Puis là, il n'y a plus la solution magique du début.
Ouais.
Elle s'applique pas à la succession de complexités qui s'en vient.
Exact.
Fait qu'il va falloir que tu adaptes la solution magique que tu avais, puis que tu la raffines, puis que tu... Et là, tout à coup... Fait que c'est comme si on diagnostiquait des cancers à chaque semaine, puis qu'on recommandait tout le temps de l'eau citronnée, de l'eau à la framboise, mais il n'y a aucun cancer qui va se guérir avec aucun...
Non, tu viens au Moyen-Âge, c'était la saignée.
Voilà,
ça s'est saigné. Une petite saignée. Mais dans le malade saignée. Imaginaire ben dans lequel oui. on t'a vu, que t'étais ben tellement saignée. Formidable.
T'étais ça tellement saigne. Drôle là-dedans, ça avait pas d'allure.
Mais en parlant de mais en parlant ça de cancer ou de superficialité, couvrir un peu, être partout et nulle part.
Mais tu trouves pas que c'est il faut bien qu'il y ait des bénéfices à vieillir, il faut bien qu'il y ait des bons côtés.
Ouais.
C'est que tu tombes dans la verticalité.
Oui, oui. C'est ça, exactement.
Et,
ça tente de prendre un sujet puis de creuser.
Non, mais c'est parce que tu as sorti.
Ouais.
Moi, j'ai sorti en masse. Je l'ai fait. Oui, puis oui, bon, oui. Après ça, là, t'es plus là, dans prendre du temps, puis approfondir, exact. Puis lire des classiques que t'as jamais lus. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme, c'est ça qui est le fun.
C'est ça l'affaire. Être avec fun, soi, prendre du temps pour soi. Ouais. Si je vais faire ce que je peux être seul. Moi aussi,
mais
je sorti
être
beaucoup.
Avec soi.
Être avec soi. Et non pas être paraître avec soi, mais être avec soi. Puis, c'est vraiment. De s'ancrer, de se déposer, mais quand est-ce qu'on n'a pas le temps? On n'a pas le temps, on prend pas le temps.
On prend pas le temps.
Moi, j'aimerais ça vraiment revenir, excuse-moi, parce que ça m'a fasciné.
À la religion.
Non, mais je veux revenir, ton travail, même si c'est pas un travail, mais ta présence auprès des gens en soins palliatifs, moi, ça me fascine.
Ouais.
Tu les accompagnais jusqu'à la mort, jusqu'à la dernière minute?
Je les rencontrais dans leur chambre, parce qu'ils étaient rentrés depuis une semaine ou quelques jours, puis ils savaient très bien, en toute connaissance de cause, qu'il y en a rares, mais ça arrive qu'il y en a qui ressortent, étonnamment.
Ah oui?
C'est très rare, mais ça peut arriver. Mais sinon, donc, c'est de rencontrer ces gens-là que je ne connais absolument pas.
Richard, de se dire, moi, je vais sortir.
Ah, oui, mais c'est drôle. Dans sa tête, il est dans ma tête. C'est ça que je m'en
suis dit. Ouais, tu t'es
mais
dit.
C'est très drôle.
Ah, check bien ça, moi, je vais sortir. Moi.
Et l'idée de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, ça, dans ce contexte-là, c'était formidable. Puis l'été dernier, ben, je pense que vous savez, là, j'ai fait une marche de Longueuil à Rimouski. J'ai dormi chez des gens que je ne connaissais pas. Les gens me disaient, mon Dieu, comment t'as fait? J'ai dit, ben, j'étais prêt, j'étais disponible et c'était ça le but. Fait que j'étais donc ouvert à ça. Mais de rencontrer des gens que tu connais pas, parler du sujet
intime.
T'as marché pour sensibiliser les gens aux troubles anxieux.
Rencontrer des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, dormir chez eux dans leur intimité. J'arrivais, disais, ah, OK, ta chambre, tu prends une douche, oui, OK, on va manger. Puis là, on rentrait rapidement, anxiété, mort, des sujets très graves. On parlait pas de la pluie et du beau temps, là. Et c'était, les gens étaient d'une générosité, d'une ouverture qui m'a beaucoup touché. Puis aux soins palliatifs aussi, les gens se confient parce qu'ils sont face à des situations où on traversait des épreuves qui les ont décapés.
Non, tu ne parles pas du dernier
on n'est plus dans le vernis, là, on n'est plus dans
mais non, occupation ça, c'est double, décapé, là. J'aime beaucoup l'expression.
On est décapé, donc tu n'es pas dans, tu sais, dans notre milieu des fois. Je comprends que c'est un réflexe, là, mais tu allô, comment ça va, toi?
C'est pas le tourne, temps pour ça.
Allô, ça va, oui, toi? Puis pas que dans notre milieu, dans d'autres milieux, on évacue, on n'a plus de temps de rencontre de qualité ou en tout cas fréquemment, les conditions font pas en sorte qu'on puisse rencontrer réellement l'autre parce que il y a des impératifs de gestion et de rendement et de.
Ben l'horloge de la mort fait en sorte que là, t'as une conscience de ok, il reste pas beaucoup de temps, c'est qu'on n'a pas le temps de niaiser. Mais quand tu vis dans une société, je fais un lien avec ce qu'on disait au début. On a tassé les cimetières. On les a mis dans des endroits où on passe pas souvent.
C'est ça.
On vit dans une société où on n'a pas, tu sais, ma génération n'a pas connu la guerre.
C'est ça.
Mais rare, là. Rare les générations qui n'ont pas connu la guerre obligatoire, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand t'es obligé, peu importe ta génération, de vivre ton 20-25 avec des sandales, une épée, puis de voir le trois quarts de tes chums mourir, puis quand tu reviens, ben là, tu le sais que t'es...
Notre gros truc, nous autres, ça va être 10. Ça va être la pandémie. Ça va être ça.
Ouais. Ouais. C'est que...
La guerre ou la famine, des trucs comme ça.
C'est ça. Puis là, ces choses-là, moi, je pense que la pandémie, on dit chez les jeunes, c'est une catastrophe, mais c'est une génération
sacrifiée.
C'est pas une plus grosse catastrophe que débarquer à Normandie. C'est un énorme défi où vous allez avoir appéri dans quel bateau vous êtes, puis la solidité du bateau dans lequel vous êtes.
Ouais.
Fait que vous allez, quand le beau temps va revenir, vous allez avoir catché que le bateau est capable de rocker à gauche puis à droite. C'est quoi ses forces, ses faiblesses? Puis ils vont habiter un bateau qu'ils vont connaître un petit peu plus. Les enfants vivent ce défi-là, puis je suis sûr que ceux qui ont 16 ans le vivent différemment que ceux qui en ont 8.
Mais c'est pour ça que l'association des pédiatres qui avait dit c'est une génération sacrifiée.
Ben non, pas du tout.
Barnouche.
Pas
calmez-vous, je veux bien croire que vous voulez attirer notre attention, que oui, il va y avoir de la détresse, puis tout ça. Mais je trouve que leur vocabulaire, l'enflure du vocabulaire, la génération ben non, c'est ça,
le scénario que toi t'as écrit, idéal, c'est sûr que c'est pas ça qu'ils vivent en ce moment, mais ils vont avoir appris des affaires qu'on n'aurait pas pu leur enseigner de toute façon.
Vous aviez jamais entendu parler du fait que, semble-t-il, je ne sais pas dans quelle mesure cette statistique est réelle, mais que 80 % des gens autrefois disaient qu'ils n'aimaient pas leur travail.
Oui.
Ou qu'ils le faisaient simplement pour...
Ben, je suis convaincu.
Ben oui, c'est normal.
Oui,
c'est normal. Je disais, présente-moi un vidangeur que c'est sa passion.
Oui, je sais.
Tu vas m'étonner.
Mais ce dont je parlais par rapport à 80 % c'est que ça m'étonnait. C'était des chiffres relativement... années 2000, je sais pas quoi, je disais. Puis malgré les vastes possibilités qui s'offrent, j'étais étonné du chiffre, c'est tout.
Oui, mais Legault parlait de... Tout le monde parle, ou Manon Massé qui parlait de... qui revenait sur le 1 Québécois sur 5 vit de la détresse psychologique. Chris, on est en pandémie.
Ah oui.
C'est une statistique tout à fait normale, tabarnak. Ben oui. Il n'y a plus de restaurant, ça va mal. Si t'es de bonne humeur... puis t'es au top, puis c'est ta meilleure année 2020. Christ, t'es insensible, honesty. Mm. Ça meurt, puis ça va pas bien. Mm-hmm. Fait que on vit tous de la détresse. Mm. T'sais, il y a comme une médicalisation de la détresse. Je pense que t'es normal. C'est comme les militaires qui reviennent de la guerre,
ah ben oui,
qui ont des syndromes post-traumatiques.
Moi, je trouve qu'on est tous
en post-traumatique.
Mm. Oui.
Tous un peu, là, ce qu'on vit est très étrange.
Mais dire que c'est pas normal, c'est oui, non, c'est de rajouter une couche qui aide pas. De dire que hey, c'est normal, tu vis de l'angoisse, ben moi j'en vis là. Tu sais, j'étais à fait du monde, j'étais avec des artistes.
Ce que je disais, Martin, au départ, c'est que c'est pas systématique. Attention, parce que moi personnellement, je ne vis pas d'anxiété. Je l'ai tellement vécu que je compose différemment et je maintiens, je disais qu'il y a avoir chapitre une voix différente. Parce que c'est pas tout le monde qui réagit avec la même intensité.
Mais excuse-moi, excuse-moi de te demander ça, mais...
Oui, je suis d'accord.
Tu vis de quoi, là? Parce que t'es comédien, il y a plus de pièces de théâtre. Mais, comment,
en fait, j'ai été chanceux, j'ai pas perdu de contrat, tout a été déplacé. Tout est déplacé en 21-22.
Mais quand même, il faut que tu payes ton loyer tous les mois?
PCU.
Ah, ouais.
J'ai désherbé cet été, j'ai fait du désherbage. Je suis allé dans un domaine à Moranite, j'ai eu 3 contrats, je me suis mis les genoux dans la terre, puis j'ai désherbé.
T'as fait de l'aménagement paysager?
Ben, j'étais engagé par quelqu'un qui disait, OK, là, telle plante. Je connaissais rien ou à peu près.
OK, tu faisais ça comme job, là.
J'ai fait ça comme job d'appoint. J'ai fait la révision linguistique. J'ai fait d'autres petits trucs, mais je me suis débrouillé. J'ai dit, je ne vais pas seulement engranger la PCU. Je vais me retrousser les manches. J'ai fait du désherbage. J'avais les genoux dans la terre, puis en il faisait chaud, mais c'était zen, c'était vertical. Puis tu fais, c'est métaphorique, là, tu fais de l'espace.
Puis t'es le contact avec les racines, tu nous disais tout à l'heure, les
exactement.
Racines et
tout. Exactement. Ça, j'étais content. Mais ça m'a apaisé beaucoup.
Le fait d'avoir cheminé tellement au niveau psychologique, là, il arrive ça, cet imprévu-là.
Oui.
J'ai l'impression, j'ai tendance à penser que t'as des meilleurs outils que la moyenne des autres.
J'ai des outils, parce que je les ai gossés, mais j'ai rencontré. Puis à l'époque, tu sais, je me souviens, j'étais à l'École nationale, quand c'est arrivé, cette chute-là, c'était une chute, littéralement, un effondrement. Les autres comprenaient pas. Le monde comprenait pas. Je croyais du monde qui disait, tu dois être fatigué ou tu sais, bon. Puis, ces gens-là, plus tard, eux-mêmes se sont mis à vivre de l'anxiété. Ah. Et l'anxiété est un phénomène qui est ascendant j'ai donné des conférences dans 2 écoles, entre autres. C'est effrayant ce que je voyais à la cafétéria, là. À Kevin, dans mon texte, à Kevin, ils sont fragmentés, agités, tourmentés, puis hypersensibles. C'est une qualité. Mais il y a la comparaison, le bullying, bon, tout ça qui fait que ça amplifie.
C'est vraiment
c'est terrible.
Le plus beau conseil que tu peux donner à quelqu'un, j'ai 3 enfants, développe une vie intérieure. Arrête de te regarder dans le regard des autres. Fous-toi de ce que les autres vont penser. Arrête de tout le temps chercher l'approbation. Développe une vie intérieure. Réfléchis, ennuie-toi, pense, lis.
Dépose-toi.
Mais ça, là, c'est le plus beau conseil que tu peux donner. Mais comme tu dis, ils sont tous
La masturbation.
Out there.
T'sais, on sous-estime.
C'est très vrai.
De dire aux jeunes que... Trouve un endroit. On appelle ça un jardin secret. Puis essaie d'être régulier. Ça veut dire que ça t'oblige à te concentrer avec toi-même. Ça t'oblige à ne pas être avec un paquet de monde.
À avoir de l'imagination.
À développer ton imagination. Puis entretenir...
C'est ton gym intérieur, les gyms sont fermés.
Ouais, la masturbation, là, dès que ça devient possible, poursuis cette entretien, cette portion-là.
N'oublie pas cet outil-là.
Exactement.
Prends-toi en main.
Prends-toi en main.
Prends ton avenir en main.
Qu'est-ce que ça vous dit, cette société-là qui dit... On garde les Costco ouverts, mais on ferme les théâtres.
Les musées.
Moi, je suis allé une première chez Duceppe pendant la pandémie quand ils ont ouvert les théâtres.
Ben, on s'est vu ce soir-là.
Ben oui.
C'est ça. C'était très correct, très sécuritaire. Écoute. Ils nous faisaient sortir une rangée après l'autre. On était très loin les uns des autres, bien plus que chez Costco.
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce que ça... Puis je suis allé au Musée des Beaux-Arts. C'était super sécuritaire. Qu'est-ce que ça dit d'une société en disant on peut fermer les théâtres et les musées, mais Costco, Chris, on peut pas fermer.
Je suis allé voir l'expo sur Dior.
Oui, chanceux.
Au musée McCourt, Dior. Ouais. Mais on était 10, mettons. Puis j'ai vu les
il y avait 3-4
expos différentes. Mais oui, c'était complètement sécuritaire.
Mais tu pourrais pas aller acheter une robe de... C'est simple, ça n'a pas de sens. Là. Tu peux aller acheter une robe de haute couture dans les magasins, oui. Mais tu peux pas aller voir une exposition sur Dior, qui est un des plus grands couturiers de l'histoire.
Exactement.
De la civilisation occidentale.
Puis effectivement, dans les grandes surfaces comme ça, pour ne pas le nommer Costco, mais parce que je suis allé quelques fois, mais oui, il y a des règles et tout ça, bon, c'est quand même sécuritaire, on va dire, mais tu côtoies beaucoup de monde.
Costco, tu es obligé de respecter 2 mètres parce que c'est la longueur du panier.
Oui, absolument.
Non, c'est la largeur du panier.
La largeur, oui.
C'est 2 mètres par 2 mètres. Fait que tu es obligé de le respecter.
Moi, je suis curieuse parce qu'on a demandé à Patrice de quoi il vivait en cette période de pandémie. Mais toi, Martin, t'en as de collé ou
moi, c'est... Lui, il est devenu millionnaire avec Netflix.
Non, mais je ne suis pas sur la PCU.
Parce que les pêcheurs sont diffusés sur Netflix. C'est important de le mentionner.
C'est un de mes bons revenus cette année. Mettons, là. Les pêcheurs, ça a été... mon revenu est... Une grosse proportion de mon revenu est américain cette année. Mais...
Thank God!
Puis tant mieux, parce que ben j'ai 2 jeunes enfants. Puis là, je m'occupe de mes enfants l'été. Mettons, tu décrivais ton
enfants,
été.
Ils ont quel âge, Martin?
13 ans, 11 ans. Okay. Mon défi, moi, c'est d'écrire, c'est de préparer la suite, tout en étant... avec mes enfants, de façon... J'ai beaucoup trop de temps. Là, l'école est recommencée, puis ça m'a fait énormément de bien, parce que c'est vraiment en train de me vider mes batteries. Tu sais.
Ah oui?
Parce que, ouais, je lisais Gabriel Franchard, mais je me dis, mais au moins, lui, il n'a pas d'enfant. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'était...
Ça draine, hein?
Ben, tu sais, si c'était des enfants, mettons, je sais pas, je m'imaginais, je suis un Amérindien, mes enfants, ils me suivent, ils vont s'intéresser à ce que je fais, parce que ce que je fais... va leur permettre de survivre. Je suis en train de fabriquer un canot, puis eux autres, ils ont bien catché que s'ils veulent survivre, il va falloir qu'ils apprennent à faire des canots, fait qu'ils t'écoutent. Là, moi, je suis un artiste, je racle le terrain au chalet, puis ils n'identifient pas ce que je fais à de la survie, fait qu'ils se crissent de ce que je fais. Fait ils m'aident pas à racler le terrain parce qu'ils voient pas un objectif de survie. Ils font comme, non, le iPad est plus le fun que mon père a ramassé et fait mort. Fait que ils sont pas en train de faire quelque chose qui m'aide, ils sont juste en train de faire quelque chose égoïstement qui les intéresse, puis moi qui en fais une autre. Fait que c'est très difficile à conjuguer.
Ils sont peut-être en train de se masturber parce que tu leur as dit que c'était une bonne chose.
Là, moi, je c'est ça. Ça fait partie des choses qu'ils font. Fait que sinon, je te dirais que c'est une époque super intéressante. Je pense pas que mes enfants vont consulter chez le psy parce qu'ils ont pas vu leur père, qui était la fameuse source de toutes les psychothérapies des années 80.
Père manquant,
mon père,
fils manqué.
Il était où? Hein?
Fils, ben ouais.
Fils père manquant,
père manquant, père manquant, fils manqué.
Mon Dieu, l'absence du père. C'était 70% du cinéma québécois.
C'est ça.
100% c'est des ça. Hommes en thérapie. Sauf qu'ils vont aller en thérapie parce qu'ils m'ont trop vu. Je sais pas ce que ça va donner, mais visiblement, les enfants n'auront pas manqué de père pendant les années qu'on vit.
C'est bien, c'est super, les pêcheurs sur Netflix, puis tu continues à écrire, puis tout ça. Moi, j'écris mon solo qui va être
Oui, en 2021.
Oui, en 2021, puis c'est prévu, il y a déjà un théâtre, tout ça, puis bon, tout ça, c'est formidable. Là, j'ai commencé à l'apprendre, puis je suis pas mal avancé.
Mais…
Ton premier solo.
Oui, c'est solo, puis c'est pas… c'est ça, c'est écrit, les coupures sont faites. Mais d'apprendre ça, parce que je me dis, je suis assez discipliné pour l'apprendre, mais je sais pas si en septembre 21, si ça va se faire finalement, il y a un doute, fait que… Quand même, de se donner la discipline d'apprendre, c'est quand même…
Ben, d'apprendre quelque chose d'apprendre pour que où tu n'as pas la certitude que c'est dur.
Ouais.
C'est très dur.
Je suis discipliné, mais là, j'ai comme eu un moment de ralentissement. J'ai comme un doute qui s'installe. Je fais non, reprends-toi en main. Là, parce que,
et si jamais tu devais jamais remonter sur scène, Patrice?
Ah, ça, c'était intéressant. je me suis posé la question. À un moment donné, ça va finir par finir un jour, inévitablement. Je sais pas. Parce que je vois pas ce que je ferais d'autre. Je me suis beaucoup posé la question. Mmh. J'ai aucune idée. Je sais pas ce que je ferais.
Ça te rendrait triste?
Oui et non, parce que j'ai joué, tu sais, j'ai quand même exploré ça. Je sais pas ce que je ferais.
Et ce qui est intéressant aussi dans la pandémie, c'est qu'on vit dans une société où on pense qu'on savait.
Oui.
Que tout était sous contrôle. Exact. On a des machines, on a des états, on a des statistiques, on a des journalistes d'enquête, oui. On a des médecins, tout ça, des scientifiques. On sait. Puis là, on arrive dans une période où on ne sait pas. On n'en a aucune christie d'idée. Ouais. Et là,
les repères
ça, c'est difficile parce qu'on a besoin, l'homme avec un grand H a besoin d'être rationnel puis de dire que le monde a du sens. Si tu disais l'humour, ça donne du sens. Le monde a du sens. Et là, il faut vivre avec le monde n'a pas de sens. Les scientifiques s'obstinent entre eux autres. Les journalistes s'obstinent entre eux autres. Puis tu regardes ça, puis what the fuck is going on?
Et étonnamment, Richard, les gens n'ont jamais été aussi hyper sensibles.
Ouais.
Tu parles de perte de sens, mais on est dans une hypersensibilité. Fait que ça, c'est un autre sens aussi. C'est pas rationnel. C'est, on est déstabilisé. Fait que la sensibilité est amplifiée.
Parce que le rationnel a pris le bord.
Le rationnel a pris le bord. Fait que les gens sont déroutés. Ce qui était la ligne droite, c'est plus ça. Plus de certitude, plus d'habitude.
Je trouve que c'est
de sens en même temps. Ça bouscule beaucoup, mais c'est pas nécessairement, tragique. Oui, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de choses extrêmement difficile.
Donc, on est dans l'émotion.
Mais, mais c'est un laboratoire, puis c'est un champ d'investigation, d'exploration qui est incroyable. Je vais un petit peu m'envoyer un petit peu. Mais,
te lancer des fleurs?
Oui. Oui. Non, mais dans le sens, ce que je veux dire, quand j'ai fini la marche, puis qu'il y a eu une motion à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que le gouvernement, on n'était pas à la pandémie, mais accorde davantage de sous, d'espace pour, régler ou neutraliser les troubles anxieux, en tout cas favoriser plus d'outils et d'aide et tout ça. Mais là, c'était voté à l'unanimité. Puis ça, c'est ce qui m'a le plus touché. C'est de voir que tout le monde. Parce que l'anxiété touche tout le monde à différents degrés. Ça ou d'autres choses, la maladie ou les abus ou tout ce qu'on voudra. Mais j'ai fait. Donc, il y a des dénominateurs communs dans l'humanité qui nous rassemblent. Ce qui nous divise, on le sait. C'est facile d'être divisé. Mais ce qui nous rassemble, tu sais, par rapport à la mort vieillir, je sais pas quoi, on peut-tu en parler d'abord?
Mais c'est extraordinaire que tu aies fait cette marche-là et que ça ait sensibilisé
les
gens à ce point-là.
Ça a été fluide, c'était un bon timing, ça a bien marché. Fait que j'ai fait, donc l'humanité est importante, ou la nature de l'être humain est importante. Parce que le reste, c'est du vernis, c'est la culture, c'est des différences, c'est l'ego, c'est correct, mais…
Ce qui est inspiré dans ta démarche, c'est une démarche, c'est le cas de le dire, mais…
démarche, toi qui aimes les jeux de mots.
C'est démarche.
Oui.
Mais c'est un geste individuel.
Oui.
C'est une performance personnelle.
Oui.
C'est quelque chose de persistant dans le temps, puis qui a demandé de l'acharnement.
Oui.
Puis puis de ne pas lâcher. Tu as incarné physiquement une idée, puis après ça, elle sert à tout le monde.
C'est ça.
Fait que ça… Pour moi, c'est plus qu'une pièce de théâtre, ça.
Oui,
une pièce de théâtre ou un film, des fois, n'arrive pas à autant de concret qu'un geste comme ça qui est posé, qui est persistant, puis qu'après ça, change. Parce que c'est pas toi qui vas en bénéficier. Toi, tu avais fait ta démarche. C'est toutes les autres gens qui ont des troubles anxieux qui en bénéficient.
Juste d'ouvrir le débat, mais en fait, ça m'est venu spontanément, cette idée-là. Puis ensuite, ce dont j'étais content, mais la première soirée, j'ai dit « Oh, c'est peut-être la folie, ce que tu fais. » Dès le lendemain, j'ai jamais lâché la détermination. Puis, tu sais, je faisais 15-20 km, c'était pas si énorme, mais Mais ce que je veux dire, c'est que c'était,
j'étais lourd. Je marchais 15-20 km par jour.
Par jour.
Quand même.
Mais ce qui était formidable, c'est que l'énergie que je recevais des gens, puis des gens s'arrêtaient en auto, en moto, en vélo. Oui, spontanément. Je rentrais dans la voiture de quelqu'un que je connaissais pas, je jasais pendant une demi-heure avec la personne, tu sais. Fait que ça générait de la communication puis des rencontres. Fait que ça, c'est comme si la roue s'emballait, tout ça. Fait que ça, c'était formidable. Puis en soi, c'est une marche, j'ai pas, tu sais.
Mais c'est comme un chemin de Compostelle, ouais, si on veut, mais d'une autre façon.
Mais cette intuition-là qui m'est venue, j'étais content de l'avoir écoutée puis de l'avoir appliquée. L'intuition, c'est important. On parle pas beaucoup d'intuition. Mm. Quand on a une intuition, souvent, on va rationaliser en se disant, j'ai goût de parler à telle personne, ou j'ai goût de renouer, ou j'ai goût de faire telle chose. Oh non, finalement, ça n'a pas de bon sens. Tout de suite, là, on se met à négocier.
Je pense que si tu en avais parlé, plus t'en aurais parlé à du monde avant de le faire.
Les gens t'auraient dit de pas
moins,
le faire.
Moins tu l'aurais fait.
Complètement.
Parce qu'il n'y a personne qui aurait dit c'est une bonne idée.
Non.
Tout le monde aurait fait la nomenclature des choses qui vont arriver, puis là, il va t'arriver ça, puis là, puis qu'est-ce qu'il y a. Puis là, t'aurais été surchargé de,
non, de recommandations. Ouais. Mais l'intuition, ça, c'est une chose que j'aime beaucoup, dont on est doté, l'être humain, tu sais, l'intuition. On n'en parle pas souvent parce qu'on négocie, on est conditionné souvent à baliser puis à se cloisonner dans des certitudes. Mais l'intuition aussi, c'est important. C'est comme, j'ai eu ce flash-là où il y a quelque chose qui vient que je pensais pas ça, puis qui fait que, je sais pas, sur un coup de tête, tu veux changer d'emploi ou déménager ou faire telle chose que tu penses que tu t'autorisais pas à faire nécessairement. Mais c'est important, ça aussi. Parce que les enfants sont dotés de beaucoup d'intuition aussi. Tu sais,
d'être ouvert aussi à ce que la vie te présente aussi, là, de ne pas avoir un plan.
Exact.
C'est d'être ouvert à ce que, ce que la vie te présente.
Oui. Oui. Mon Dieu, je te reconnais pas, c'est comme, t'es zen.
J'ai
rendu zen,
des perles de sagesse.
Des perles de sagesse. T'es à la veille de faire des conférences à C2 Montréal.
Non, non, mais je vais je vais écrire des messages dans les biscuits chinois.
Ça ressemble à un livre, Les perles à Martino.
Mais les perles à
Martino. Les perles à Martino, tu sais, les petits copeaux, là.
Ben oui, les petits copeaux qui laissent traîner
entre deux chroniques. Entre deux chroniques.
Merci beaucoup. On vous a pas reçu chez nous. On aurait bien aimé.
Vraiment, vous avez été
vraiment
super.
C'était formidable.
Vraiment. Super.
J'ai adoré cette conférence.
Salle de conférence.
Merci.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.